Pauline Pucciano, La cité d'Albâtre, chapitre 6, Les termes du marché. Le quatrième jour, après le bannissement d'Elénore, Kittel attendait Keller avec une impatience de jeune homme. Il avait fureté en vain en ville, délaissant à regret l'intemporelle sérénité de son appartement, mais n'avait glané aucune information. À peine la rumeur d'une guérisseuse ayant soigné un nouvel apostat. Le vieillard fatigué était rentré chez lui, bredouille, plusieurs jours durant. Il guetta l'arrivée de Keller par la fenêtre et gloussa à part lui en voyant sa démarche qui dénotait une mauvaise humeur consommée. Il lui ouvrit la porte, comme toujours, avant qu'il eût le temps de frapper. Keller lui adressa un signe de tête silencieux et se débarrassa de son vêtement sans un mot. « Allons, maître Keller, mettez fin à ma torture. Voilà 4 jours que je brûle d'impatience. » Keller le considéra, hésitant au seuil de la colère, puis capitula. Comment ce vieil homme faisait-il toujours pour être sympathique même lorsqu'on lui en voulait ? « Parlons-en, oui, et apprêtez-vous à essuyer une tempête de mauvaise humeur. »« J'y suis déjà préparée, » dit Kettel malicieusement. « Comment va-t-elle ? » ?»« Oh, ça, elle va bien, rassurez-vous. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous vouliez à toute force lui trouver un protecteur. C'est d'elle qu'il faut se protéger. » Kettel fronça les sourcils. « Elle a donc été si terrible ?» Il a d'abord fallu me battre avec elle pour qu'elle accepte mon hospitalité. Ensuite, elle est tombée malade et est restée inconsciente pendant 2 jours, pendant lesquels je me suis fait un sang d'encre. Et à son réveil, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller vagabonder en ville basse à moitié nue, après m'avoir décoché quelques flèches de sa langue de vipère, sans compter bien sûr qu'elle a réclamé une bouillie de pétales et a manqué s'évanouir à l'évocation d'une tranche de foie. N'est-elle pas rentrée ? Oh si, le soir même, habillée comme un homme, ayant dilapidé ses possessions dont elle ignore totalement la valeur, très fière d'avoir déniché un taudis abandonné dans le quartier Est infesté de chafouins et d'avoir fait déguerpir une bande de garçons qui auraient pu la tuer d'un simple jet de pierre si elle n'avait pas joui d'une chance insensée. Et depuis ? Elle s'est débrouillée pour troquer encore quelques inestimables affaires contre de mauvais meubles et a passé sa dernière journée à nettoyer ce qu'elle sentait à appeler « sa maison ». Ah ! J'oubliais, elle sort affublée d'une coiffure ridicule et son dernier caprice auquel elle tient expressément est de se faire appeler à Elénore. « Elle n'a pas beaucoup changé, » dit-il. « Vous voulez dire qu'elle est toujours aussi têtue et capricieuse, inconséquente et prétentieuse que lorsqu'elle avait 5 ans ?»« Je veux dire que c'était une petite fille indépendante, impulsive et extrêmement attachante. » Keller haussa les épaules puis esquissa un sourire. « Je ne nie pas porter un certain intérêt à ces tribulations, » ajouta-t-il. « Mais je ne suis pas venu aujourd'hui vous parler de cela, à moins que vous n'ayez des questions à me poser. »«
Pensez-vous qu'elle accepterait de me rencontrer ?» demanda Kittel. « J'aimerais lui offrir mon amitié. »«
Oui, je pense qu'elle accepterait. »«
Bien, » dit Kittel, soulagé. « Maintenant donc, passons aux choses sérieuses. »
Keller eut une expression soudain plus grave et plus fermée, et Kittel ressentit son malaise immédiatement. C'était une blessure que Keller s'apprêtait à mettre à nu devant lui, et probablement une blessure qu'il n'avait jamais montrée à personne.
« À votre avis, Kittel, d'où est-ce que je viens ? Vous m'avez dit avoir grandi en ville basse ? Était-ce un mensonge ?»
Keller hocha la tête embarrassée d'une parole qui lui brûlait les lèvres, tout en refusant de sortir. « Je ne sais si j'ai eu raison de vous imposer ce marché, » dit-il finalement. « Je finis par me demander si ce n'est pas tout simplement ridicule.
Ridicule ? Demanda Kettel d'une voix grave. « Voici le dernier mot qui me serait venu à l'esprit.
« Pourquoi ?
Parce qu'un homme qui essaye de dire quelque chose d'essentiel n'est jamais ridicule. »
Keller sourit, d'un sourire triste.
« Certains jours, j'ai l'impression que vous êtes un sorcier tout puissant, que vous lisez les pensées, et que je n'ai pour vous pas plus d'intérêt qu'une pendule démontée sur une table. C'est votre sentiment d'infériorité qui vous fait parler ainsi.
« Oui, sans doute. » Je me rends compte aujourd'hui que vous n'êtes pas devin ni omniscient. Cela me fait drôle. Je pensais que vous aviez tout deviné, que vous m'aideriez à le dire. »
Kittel se rencogna dans son fauteuil et sortit d'un de ses innombrables tiroirs un narguilé d'or. « Voulez-vous fumer ? » demanda-t-il.
« Je n'ai jamais essayé, » avoua Keller. Tout en accomplissant le rituel complexe de préparation du tabac, de ses vieux doigts raffermis par l'habitude, Kittel se remit à parler.
Voulez-vous que j'écoute avec le cœur ou que je parle avec l'esprit ?
Keller prit le temps d'observer la grâce volatile des volutes de fumée et inspira profondément une bouffée avant de répondre.
« Avec l'esprit, » dit-il.
Kittel inspira à son tour,
à petites bouffées répétées, et acquiesça. Votre question sur votre propre origine contient en elle-même toutes les réponses. Vous ne savez pas qui vous êtes, ni d'où vous venez. Vous êtes en ville basse, mais vous êtes votre propre chef, et ne partagez pas complètement le destin des bas citoyens. Vous détestez la haute ville et l'idolâtrez en même temps. Votre désir de la connaître est peut-être actuellement le plus violent de tous vos désirs, parce que vous êtes à la frontière, entre les mondes, entre les castes, entre les langues, parce que vous êtes amis avec tout ce que la cité comporte d'hybride. Kittel marqua une petite pause, pendant laquelle les deux hommes fumèrent silencieusement. « Vous ignorez l'identité de votre père, » conclut-il presque en murmurant, « et vous supposez, à tort ou à raison, qu'il s'agit d'un haut citoyen. » Keller est une drôle d'expression, d'une modestie émouvante. « Vous lisez bien dans les pensées, » dit-il doucement, « et je suis bien une pendule démontée sur une table. » Kittel fronça les sourcils. « Vous m'avez demandé de parler avec l'esprit, ce que je n'aurais jamais fait sans votre permission. » Keller sourit et se reprit. « Excusez-moi, dit-il, votre intelligence est un don précieux, et je sais que vous ne l'utilisez jamais comme une arme. » Il y eut un silence. La nappe de fumée commençait à s'épaissir, à brouiller le contour des choses et des visages, et dans cette étrange indistinction, Keller se sentit libre de parler. « Ma mère ne m'a jamais caché la vérité. Au contraire, elle m'a élevé dans la révérence d'une image idéale. Mon père, selon ses dires, était beau, noble et délicat. Il l'avait traitée avec plus de respect qu'aucun homme de ville basse, il l'avait couverte de cadeaux. Lorsqu'il a su qu'elle était enceinte, il lui a expliqué doucement que les lois de la haute ville lui interdisaient de reconnaître l'enfant, et ils ont décidé de ne plus se revoir. Il lui a laissé une somme d'obol qui pour un bas citoyen représentait une fortune. Elle n'y a jamais touché et m'a remis cet héritage intact à mes 15 ans. C'est grâce à cette aumône que je puis tenir un établissement libre sans me vendre à une guilde. » Kittel posa le narguilé sur un guéridon. « Et vous ? » demanda-t-il. « Qu'en pensez-vous ? » Keller eut un petit rire d'autodérision. « La frontière me traverse aussi, Kittel. Mon cœur espère toujours retrouver ce père magnifique que ma mère n'a jamais cessé d'aimer. Mais mon esprit s'insurge contre l'attitude du maître qui abuse de l'esclave et l'abandonne grosse de ses œuvres en se lavant les mains dans un sac d'obol. » Kittel sourit. Vous êtes plutôt lucide pour une pendule démontée, dit-il. Keller accepta la plaisanterie de bonne grâce. Comprenez-vous maintenant, demanda-t-il, il faut que je l'identifie, que je le trouve, que je le rencontre. Pour savoir qui a raison, de votre cœur ou de votre esprit. Qu'en pensez-vous, Kettel ? Kettel parut embarrassé. Je pense que votre père doit bien peu me ressembler et que c'est de lui qu'il faut attendre les réponses et non de moi. Keller médita quelques instants sur ces paroles. M'aiderez-vous ? Je l'ai promis. Que savez-vous de lui ? Peu de choses, en vérité. Ma mère est morte il y a déjà plusieurs années alors que j'étais jeune et persuadée que l'avenir d'un homme ne se fondait pas sur son passé. Vous ne lui avez donc pas posé beaucoup de questions, et il ne vous reste que quelques détails propices à marquer l'imagination d'un enfant. Il était vêtu d'une toge verte, et son cristal, nous disons pierre frontale, le corrigea Kittel gentiment. Sa pierre frontale était rouge, en forme de demi-cercle. Pas d'autres détails sur son physique ou ses activités au sein de la guilde ? Ma mère me répétait souvent que je lui ressemblais. Quel âge doit-il avoir ? Il devait avoir la trentaine à ma naissance, ce qui le porte à presque 70. « Un âge canonique !» s'écria Kittel en gloussant. « À peu près le vôtre ?»« Si vous suggérez que j'aurais pu le rencontrer sur les bancs de la haute école, ma réponse est oui. Mais, vous me connaissez, j'ai toujours été solitaire et excentrique, et je n'ai jamais beaucoup frayé avec mes semblables. » Keller se sentit un peu déçu, se rendant compte qu'il avait nourri le fol espoir de recevoir une réponse tout de suite, sitôt la question posée. « La tâche vous paraît-elle insurmontable ?» Kittel hocha la tête. « Non, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir, mon ami. Il nous faudrait des contacts en haute ville. Vous n'en avez plus ?» Kittel sourit malicieusement. « Voilà 15 ans que mes anciens amis détournent la tête en me voyant, maître Keller. J'ai fini par renoncer. » Keller se sentit grossier tout à coup. Ce vieil homme dont il enviait le savoir, qu'il considérait comme un demi-dieu, avait été réduit à une solitude humiliée et vivotait péniblement dans un immeuble sordide. Une image d'Aélénor lui vint à l'esprit, et il se prit à craindre pour elle. « Je suis désolée de vous avoir confié ce fardeau, dit Keller, alors que... Tout d'abord, ça n'est pas un fardeau, mais une énigme tout à fait passionnante, qui me permettra de surcroît d'enfreindre quelques règles et de faire quelques pieds de nez à des gens que je méprise. Ensuite, je ne crois pas que votre quête soit futile, car elle déterminera votre destinée, qui déterminera à son tour plus de choses que vous ne croyez. Enfin, en matière de fardeau, je vous rappelle que j'ai été le premier à vous en fourguer un. » Keller avait définitivement quitté sa mauvaise humeur et se sentait capable, comme rarement, de sincérité. « Vous savez bien qu'Aelenor n'est pas un fardeau, dit-il, mais un grand événement dans ma vie. » Kettel ne lui demanda pas de s'expliquer. « Où en sont les termes de notre marché ? » demanda-t-il avec douceur. « Il n'y a plus de marché, » dit Keller en souriant. Chapitre 7. L'initiation. Joris s'aventurait, à la suite de Maître Sornard, dans une partie de l'édifice qui lui était inconnue. Pas de fresques somptueuses ici, pas d'élégance décorative. Seulement, sur la nudité angoissante du marbre, quelques symboles indéchiffrables. L'espace était ici plus étroit, plus sombre, plus tortueux, et Joris avait presque du mal à suivre le pas de Sornard. Il n'était pas homme à attendre ceux qui désiraient le suivre, et il ne se retourna pas une fois pour vérifier que le jeune homme ne s'était pas perdu. Au bout d'un temps que Joris trouva long, ils débouchèrent sur une salle circulaire où se tenaient, figés comme des statues, deux hommes en toge noire. Sornard ne leur adressa pas la parole, et les hommes ne levèrent pas la tête vers lui. Il se contenta d'ouvrir l'une des portes qui donnait sur la salle et fit signe à Joris de le précéder à l'intérieur. Quelque chose d'un peu suffocant se dégageait de ce silence, et Joris pénétra dans la cellule dans un état d'appréhension inhabituel. Tandis que le maître refermait la porte derrière eux, Joris fit face à une vieille femme, une basse citoyenne aux cheveux gris défaits, qui le fixa d'un œil rougi. Cette femme avait pleuré, et Joris éprouva un certain mépris pour cette manifestation de faiblesse. Les larmes étaient encore tolérables chez les enfants, mais celles d'un adulte en haute ville étaient une insulte à celui qui en était témoin et un déshonneur pour celui qui les versait. « Étrangle-la, » dit Sornard. La vieille femme ne comprenait pas la langue noble, mais l'aspect et le ton du maître Sornard avaient ravivé sa terreur et elle hoqueta dans le silence écrasant de la cellule. « Puis-je savoir la raison de sa condamnation ?»« Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'une exécution. Je te dirai peut-être la raison après, et peut-être pas. Tu n'es pas destiné à gérer les informations et les décisions. » Joris baissa la tête. Évidemment, il devait obéir sans poser de questions, et il regretta d'avoir posé celle-ci. Il regarda un instant la vieille femme, recroquevillée à terre, dont les yeux s'étaient remis à couler. Il regarda Maître Sornard, qui l'observait avec intérêt, et sut que tout son avenir dépendait de ses 3 ou 4 prochains gestes. Tout son avenir et toute l'estime de Sornard, qu'il espérait déjà gagner coûte que coûte. Il s'approcha de la vieille femme et la regarda droit dans les yeux. Il ne fit pas un geste vers elle avant que le verbe ait commencé son effet. « Tu n'as pas envie de me résister, » dit-il en langue vulgaire, « car je suis ta mort compatissante, qui te délivrera de ce monde de douleur et d'injustice. Mes mains sont des ailleurs lointains qui te toucheront, et ma force, un courant qui t'emportera. Tu ne crains pas mes mains, et ton souffle t'épuise. » Il approcha alors ses mains du cou de la vieille femme, qui ne résista pas. Tandis qu'il l'étranglait, ses yeux exorbités continuèrent à le fixer, fasciné. Cela se passa très vite, sans un cri, sans hésitation, sans lutte. Joris se sentait presque fier de lui. Le maître Sornard attendit que le jeune homme se tournât vers lui. « L'esprit est trop précieux pour qu'on le gaspille à apaiser les victimes, » remarqua-t-il sèchement. Joris se sentit stupide, pris d'une peur panique de lui avoir déplu, de s'être montré trop complaisant, d'avoir échoué. « J'ai encore tout à apprendre, » dit-il. « En effet, » dit Sornard, « laisse-moi maintenant. »« Dois-je ? Ai-je échoué, maître ?» Le maître le dévisagea. « Non. Tes frères vont t'accompagner dans tes quartiers et t'expliquer la première règle. » Joris retint un sourire et sortit sans un regard pour le corps misérable qu'il venait de tourmenter. Seule la fierté de son succès occupait son esprit, ainsi qu'un sentiment de puissance, violent et nouveau. Il salua Sornard et fut tenté de s'adresser aux deux hommes qui l'attendaient dehors. Ils étaient tous deux secs, mais musclés. L'un d'entre eux devait avoir son âge et le deuxième était nettement plus âgé. « Vous devez... Nous savons. » « Silence. » Les deux frères s'engagèrent dans un nouveau complexe de couloirs et Joris les suivit, presque aussi intimidé par eux qu'il l'était par le maître. La présence de Sornar, ou son essence peut-être, planait indéfinissablement sur les frères sombres, dans leur gestuelle, comme dans leur visage, dans toute leur attitude qui révélait ce contrôle de soi absolu, ce sang-froid, cette détermination dont Joris rêvait dès à présent pour lui-même. Dans leur démarche à peine humaine, tant elle était dénuée d'expression, et qui ne trahissait qu'une puissance et une précision féline, on devinait les heures muettes d'entraînement, de jeûne et de combat. Dans leur silence surprenant, on entrevoyait l'horreur de l'inutile et de la distraction, l'habitude de la méditation et le long usage de l'esprit. Les trois frères arrivèrent bientôt devant une immense porte sculptée, et Joris regarda avec fascination ses deux compagnons ouvrir un ventail par la seule force de l'esprit. Leurs pierres frontales luisaient toutes deux d'une lumière très inhabituelle. Au lieu de la lumière diffuse, qui jaillissait ordinairement du centre de la pierre, elles émettaient plutôt un faisceau lumineux, et Joris crut voir un bref instant ces faisceaux changer de forme et de ligne droite se faire onde. Mais cela ne dura que trop peu de temps pour qu'il puisse analyser ce mystère. Cette sorte d'utilisation de l'esprit lui était totalement inconnue, et cela suffisait à exciter infiniment sa curiosité. Ils pénétrèrent ensuite dans une aile totalement indépendante du palais, disposant de ses propres jardins, de sa cuisine et de son réfectoire, de sa bibliothèque, de ses salles d'entraînement et de méditation, de son forum, de ses dortoirs. Des frères sombres se levaient à leur arrivée et leur emboîtaient le pas, si bien que Joris, au terme de sa visite, était entouré par une douzaine d'hommes, tous vêtus de la toge noire, tous empreints de la même expression vaguement menaçante. Ils s'arrêtèrent, et Joris les imita, dans une salle d'entraînement où des machines et des agrès étranges étaient entreposés. Mais le centre était vide, et Joris commença à redouter ce qui allait se passer. Il regarda tour à tour les frères sombres, dont les visages lui seraient bientôt familiers. Tous commençaient à rayonner un danger imminent, et plusieurs pierres frontales laissèrent fuser de fugaces éclairs colorés. Joris sentit tout à coup qu'il était un intrus, haï par avance, dont la légitimité ne serait pas reconnue avant de longues épreuves. Et la première épreuve commençait là, dans cette salle d'entraînement. Allait-il devoir se battre? Les frères sombres commencèrent à se mouvoir autour de lui, tout à fait comme des prédateurs. Il sentit leur individualisme profond, qui rendait leur évolution encore plus effrayante. Qu'imaginait donc Sornar? Était-il au courant de l'accueil qu'on lui réservait? Ne savait-il pas qu'un jeune homme formé à la haute école n'était pas de taille à lutter contre une douzaine de frères aguerris? L'attaque du premier frère fut vive et précise, comme celle d'un aigle. Joris fut déséquilibré et tomba sur les genoux, pour recevoir un second coup, en pleine poitrine, qui lui coupa le souffle. Un second frère s'approcha de lui et se dressa au-dessus de lui de toute sa hauteur. Joris ne vit pas d'où venait la pression, car il ne voyait qu'un faisceau bleu foncé dirigé vers lui, mais il fut écrasé au sol comme par un poids inouï. Puis, rien ne fut plus pour lui discernable. La douleur le saisissait toujours par surprise, tantôt derrière la tête, tantôt dans une torsion d'un membre, tantôt sur la poitrine. De ces minutes cauchemardesques, il ne devait se souvenir que du goût de fer de son sang, d'un bruissement de toge qui vibrait comme le fouet, et de l'impuissance absolue dans laquelle il se trouvait. Il utilisa l'esprit, cependant, pour ne pas perdre connaissance. Lorsque la vague de violence reflua, ponctuée par quelques derniers coups, il regarda avec une rancœur mêlée d'admiration le calme impeccable de ses tortionnaires. Pas un n'avait le souffle court, pas un ne luisait de sueur, pas un n'avait une coiffure en désordre ou l'œil fiévreux. Ils se séparèrent silencieusement, et Joris resta au centre de la salle, seul, tuméfié et sonné. Il sut, sans même se palper, que l'orage qui s'était abattu sur lui ne lui avait causé aucune lésion mortelle. Puis il comprit que ce n'était aucunement le fruit du hasard. Il fit un grand effort de l'esprit pour se relever et pour se diriger vers le dortoir en chancelant. Un frère sombre lui désigna sèchement une paillasse sur laquelle Joris se laissa tomber lourdement. « La première règle, » dit le frère en pesant ses mots, « l'humilité. L'individu n'est rien face au groupe. » Joris avait les paupières trop gonflées pour que l'autre puisse voir son regard, il résolut donc de fermer les yeux, et sombra presque aussitôt dans une profonde inconscience.